Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h40 et le club de la bourse aujourd'hui c'est avec Eric Delannoy. Bonjour, bonjour, président fondateur de Tenzing Conseil. À côté de vous, Sylvain Goyon. Bonjour, gérant action.
Bonjour.
Chez Montpensier Arbevel, de l'intelligence artificielle toujours et de la tech. Alors on aura les résultats de Micron, hein, très important ce soir. Étienne Brack, on attend quand même des résultats stratosphériques.
Oui, avec un parcours là aussi stratosphérique, hein, dans le sens où Micron a été multiplié par 9 en l'espace d'un an. Aujourd'hui c'est plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors hier c'était une séance difficile, hein, pour Micron comme pour l'ensemble du segment des semi-conducteurs. L'indice des semi-conducteurs a perdu 8%. Bon, après, il ne faut pas oublier d'où il vient. C'est un indice qui a été doublé depuis le printemps dernier. Oui, depuis le printemps dernier. Ça montre quand même l'ampleur des mouvements qu'il y a pu y avoir sur bon nombre de valeurs liées aux semi-conducteurs. Pourquoi ? Bah parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de mémoire RAM qui sont aujourd'hui indispensables pour faire tourner l'intelligence artificielle dans les data centers. Et vous êtes face à des groupes qui ont ce fameux pricing power, hein, cette capacité à pouvoir augmenter leur prix, qui est juste impressionnante. Et donc, par rapport à cela, ce soir, le consensus s'attend à des marges autour des 60-70%.
Pas d'inquiétude, du coup, sur un Nasdaq, Sylvain Goyon, qui a perdu 2% hier. Alors, à chaque fois qu'il y a un tout petit frémissement, on se dit, ça y est, c'est la bulle qui commence à éclater. On n'y est pas. Hein.
Non, mais en fait, la question, c'est toujours la même depuis un certain temps. En l'occurrence, je pense que personne ne doute que cette révolution technologique est en cours, va bouleverser nos vies. Ça, je crois qu'il y a un consensus absolument majeur là-dessus. En revanche, la question du marché financier, c'est plutôt de questionner la création de valeur qui va être là derrière. Et aujourd'hui, on est sur des montants en fait en masse, en termes de capex, on les connaît tous les chiffres, hein, qui sont gigantesques. Et on se demande effectivement si ces investissements vont pouvoir être rentabilisés avec un niveau, je dirais, de retour sur capital qui pourrait satisfaire les valorisations d'aujourd'hui. Et ça, c'est toute la question. Donc, pour le moment, effectivement, les 2% du Nasdaq d'hier, c'est beaucoup plus qu'un éclatement de bulle. Le reflet, je dirais, d'un changement de pied de la Banque centrale avec un discours qui est un peu plus dur sur les taux. Et vous êtes sur des actifs avec des durations très longues, donc évidemment plus sensibles aux variations de taux à venir.
Dès que l'argent est moins facile, ça a un impact sur la tech.
C'est le point.
Éric Delannoy, vous m'avez écrit, je souhaite un crash industriel sur la tech.
Oui, il faut qu'à un moment, tout ça ralentit. Parce que quand on évoque les retours sur investissement par rapport aux investissements gigantesques qui sont faits, ça veut simplement dire qu'à court ou moyen terme, on aura une captation de valeur gigantesque aux mains de quelques acteurs. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit très bon ni pour l'économie ni pour le social, et qu'à un moment il doit se passer ce qui s'est passé sur la voiture autonome, à savoir un ralentissement lié à un crash industriel, parce que ce qu'on ne met pas en évidence dans les problématiques d'acteurs de l'IA entre l'IA et l'entreprise, c'est deux choses: un, la répartition de la valeur; deux, la responsabilité. Quand il y a eu le premier accident dans la voiture autonome, vous avez Tesla qui a été condamné à 250 millions de dollars parce qu'ils ont été mis en responsabilité, et ce n'est plus le conducteur qui était responsable de l'accident, mais le constructeur. Demain, il y a un crash industriel avec un gros acteur de l'IA qui prend une décision qui a un impact quelconque sur la santé de quelqu'un, sur etc., se posera la même question de qui est responsable. Est-ce que c'est le constructeur ? Est-ce que ce sont eux ceux qui ont fait les algorithmes ? Ou est-ce que c'est celui qui vendait le service qui a utilisé l'IA ? Cette problématique de responsabilité, elle n'est pas du tout résolue. Et ce crash industriel, il sera de deux natures. Soit on va s'apercevoir que les rendements sont impossibles à tenir et que donc là, il va y avoir un redressement violent sur la valorisation boursière. Soit on va s'apercevoir que les problématiques de responsabilité sont telles que ça va générer des contractions. Il faut savoir que sur les véhicules autonomes, par exemple, ça a drastiquement changé le paysage des acteurs de la voiture autonome. Donc, il y en a qui ont été abandonnés, d'ailleurs. Donc, on peut se dire que là, c'est pareil.
Éric, le fait que les rendements soient impossibles à tenir, on le sait déjà. C'est-à-dire, par rapport aux investissements d'aujourd'hui, s'il fallait que ça soit rentable, le rythme à suivre est intenable.
Il est intenable, sauf à considérer qu'on peut... Vous savez, on n'imaginait pas que Google pourrait faire les bénéfices qu'il a fait sur le trimestre dernier. C'est-à-dire qu'en gros, les rendements croissants qui caractérisent ces entreprises-là sont des caractéristiques économiques nouvelles. Nous n'avions jamais de rendement croissant dans l'économie. Aujourd'hui, Google est la première démonstration d'un rendement croissant qui dure. Demain, les entreprises industrielles, IA, seront les mêmes. Et la grande différence entre la robotisation et l'IA, c'est bien ça. Quand on était dans la robotisation, la rente où le rendement, il était diffusé sur toute une chaîne qui était les constructeurs, les techniciens, une chaîne de valeur, les fabricants d'usines, les déployeurs, etc., etc., les vendeurs de robots. La chaîne de la valeur de l'IA, c'est beaucoup plus concentré, en fait. Des déploiements rapides, une concentration de la rente sur quelques acteurs, Et donc forcément, une concentration de la captation de la valeur qui est inédite.
D'où parfois, Sylvain Goyon, une recherche bénéficier de l'IA à travers des titres comme Valeo, une recherche de diversité à travers des titres qui au départ n'ont rien à voir.
Non, mais je suis pas tout à fait en accord sur l'ensemble des sujets. Effectivement, concentration de la valeur sur un certain nombre d'acteurs bien définis par Eric, on est d'accord. Mais je pense que la question de la valorisation, je dirais, relative, beaucoup plus faible d'autres secteurs, c'est justement celle de la diffusion des progrès que permettent l'IA à ces secteurs-là. Donc, vous en avez cité, hein, l'or, par exemple, Valeo. Mais bon, moi, il se trouve que je co-gère un fonds santé. La santé, il y a une question aussi aujourd'hui, notamment bon, avec le début d'année qu'on a connu, qui était compliqué, qui normalement aurait dû être favorable à la santé en termes relatifs. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Et je pense qu'en fait, une des questions qu'il y avait derrière ça, c'est la santé, c'est fatigant, c'est ringard, et surtout, on ne voit pas très bien, finalement, comment ils vont pouvoir bénéficier de l'IA. Or, s'il y a bien un secteur, en fait, où l'IA promet des choses qui sont assez intéressantes, mais avec un horizon de temps relativement loin, quand il s'agit, par exemple, des médicaments...
Donc, sous-valorisé, là, pour vous, en ce début d'année.
Très clairement, par exemple, voilà, et c'est peut-être, justement, une des thématiques qu'on pourra attendre sur la seconde partie de l'année, en se disant, tiens, voilà, cette bulle IA, cette valorisation de l'IA, les effets de diffusion qui ne sont pas encore complètement pris en compte, notamment dans les valorisations de notre secteur, certains secteurs qui sont en retard peuvent peut-être en bénéficier. La santé, par exemple, en faisant partie. Mais je crois qu'il n'y a pas de doute. La révolution, elle est là. C'est vraiment, on a souvent fait le parallèle avec les chemins de fer. Les chemins de fer, il y a eu des surinvestissements. Parfois, on a doublé des lignes pour aller au même endroit. Donc, évidemment, ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Tout le monde se sert du train. Donc, voilà.
Vous hochez de la tête, Eric.
Oui, simplement parce qu'on oublie deux choses à ce sujet. D'abord, enfin, moi, je suis dans un secteur, le conseil, qui a atteint fortement sur l'IA. Et pourtant, on se rend compte que dans le fond du métier, les gains de productivité qui vont être présents ne sont pas si évidents que ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à évaluer aujourd'hui si les coûts de l'IA, qui ne sont pas encore révélés en réalité, vont être supérieurs ou inférieurs aux gains de productivité que ça procurera. Je prends un exemple très simple, la facturation par token. Aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, vous ne la voyez pas. Parce qu'en fait, il y a une mutualisation qui est faite et vous payez un abonnement. Seules les entreprises qui ont mis en place des API le voient. Cette facturation par token, à partir du moment où elle se fait à l'entrée et à la sortie, vous pouvez avoir des factures gigantesques imprévisibles. Pourquoi imprévisibles ? Parce que plus vous mettrez d'agentique en automatisant un certain nombre de tâches, plus vous serez incapable de dire quelles sont les données qui sont prises en compte dans les résultats et donc la facturation. Ce qui donne des choses absolument incroyables, qui est qu'une entreprise aujourd'hui est incapable d'évaluer le coût réel aura pour elle l'utilisation de l'IA à grande échelle. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui, et je ne sais pas si ça a été pris en compte dans la valorisation de certaines entreprises, on estime que 40% des projets agentiques seront abandonnés en 2027. Parce que les coûts de l'IA par rapport à ça sont exorbitants. C'est-à-dire que le coût humain aujourd'hui, au regard du rendement qui va être recherché pour satisfaire ces investissements gigantesques qui ont été faits, on va peut-être se rendre compte que le coût humain, finalement, il n'était pas si négatif que ça. Et je ne parle pas, bien évidemment, de la problématique de la capacité d'adaptation des humains en général à ces technologies dont on ne mesure pas les effets.
Ou du fait que si vous êtes entreprise, vous pouvez demain tripler le prix ou quadrupler le prix pour les Européens par exemple, à la demande de Donald Trump, enfin, vous pouvez aussi avoir des sujets politiques derrière.
Les sujets de souveraineté sont en plus des sujets compliqués. Bref, on a un ensemble de thématiques importantes qui met quand même un trouble sur la capacité de rendement de cette technologie-là.
Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui en bourse, les acteurs qui fonctionnent bien, ce sont les acteurs liés aux semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'en fait, la fin, que vous soyez Micron ou Nvidia, peu importe,
je fabrique
un petit peu le trait, la technologie et le modèle d'IA que vous allez utiliser, in fine, il faut des data centers. Mais quand vous regardez les acteurs des logiciels, comme il y a des questions sans réponse, les questions que vous venez de soulever, c'est un secteur aujourd'hui qui se fait totalement massacrer, qui est oublié, parce qu'en fait, la bourse attend de voir un petit peu qui sera les gagnants à long terme, sachant que vous voyez bien, ne serait-ce qu'entre et entre ChatGPT, ça bouge tout le temps dans les classements. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet.
Étienne, on disait qu'il faut beaucoup d'argent et de l'argent pas cher pour développer l'intelligence artificielle. On en est où là dans les probabilités de hausse des taux ? Ça a encore changé aux États-Unis.
Depuis mercredi dernier et la dernière conférence de Kevin Warsh, qui, contrairement à ce que Donald Trump veut,
c'est une fausse colombe.
N'a pas du tout l'intention de baisser les taux.
Un faucon déguisé.
Et quand vous regardez aujourd'hui les anticipations d'accélération, non pas de baisse de taux, mais de hausse de taux, hein, puisque là aussi, ça s'est retourné d'une façon spectaculaire. Il y a une probabilité assez faible pour juillet, mais une probabilité beaucoup plus forte pour septembre. Plus de 70% de probabilité d'une hausse de taux dès septembre, alors que, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, c'était non, mais pas avant fin d'année, voire début 2027. Et donc ça se traduit dans le dollar, qui est sur des plus hauts de 13 mois, mais également sur bon nombre d'investissements, où aujourd'hui, il y a une question qui se pose, parce que si demain, il y a une hausse de taux, bah forcément, la rentabilité ne sera pas du tout la même sur les capitaux investis.
Sylvain Goyon.
Oui.
Non, mais comment vous voyez ça? Est-ce que ce dollar qui monte, ça a un impact, bien sûr, sur les autres monnaies?
En fait, je pense qu'on a une espèce de fil rouge, malgré nous, là, et qui, effectivement, se situe dans cette histoire de hausse de taux. On a évoqué très rapidement, avant le début de l'émission, le yen. Bon, bah, voilà, on regarde beaucoup le Nasdaq, évidemment, il faut le faire. On regarde peut-être moins le yen, et c'est. Moi, je trouve que c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment.
Il y a des records de baisse, hein,
absolument.
Sur le yen.
Alors, on comprend assez
depuis
bien.
Depuis 86, hein, c'est ça, Étienne?
Ouais. Oui, c'est ça, le dollar yen est au plus bas depuis 86. Alors, en fait, pourquoi? On voit très bien, la Banque du Japon, elle a tendance à vouloir remonter ses taux pour, évidemment, combattre l'inflation. Sauf que le Japon, on le sait, a une masse de dette publique qui est juste gigantesque, hein, de largement plus de 200% du PIB. Un point de hausse d'intérêt sur 200 points de PIB, c'est 2 points de PIB, en fait, en intérêt supplémentaire. Donc, évidemment, on n'a pas spécialement envie de faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, on a une Fed qui monte. Une BOJ qui ne monte pas, le différentiel de taux, pousse effectivement le dollar vers le haut et le yen vers le bas. Le problème que moi je vois peut-être se dessiner derrière ça, ça rappelle ce qui s'est passé en 2024, qui était la crise du carry trade. Vous avez une monnaie dans laquelle vous pouvez vous financer pas cher du tout. On parlait d'argent gratuit, quasi gratuit. Bon, bah, le yen est là, donc ça c'est super. On achète quelque chose, enfin on emprunte dans une monnaie qui va se déprécier. Vous remboursez encore plus facilement puisque la monnaie se déprécie. Et vous investissez dans des actifs qui effectivement vous produisent plus d'intérêt. Top. Top, sauf quand ça se retourne. Et si le yen, se redresse brutalement, ben là, vous avez en fait tous ces carry trades qui sont en train de se défaire. Et là, vous avez un choc sur le marché qui est très important. Donc, l'un dans l'autre, en fait, tout se tient. C'est-à-dire qu'on a quand même cette problématique des banques centrales, des taux, effectivement, qui se répercutent aussi dans les paires de devises et qui influent aussi tout le circuit de financement mondial. Et ça, moi, je pense que c'est un des sujets qu'il faut absolument regarder et en tout cas avoir à l'esprit.
Et Eric ?
Oui, enfin, je constate que les mécanismes économiques sont toujours ceux qui prévalent partout. Hein. En fait, la grande chance que l'on a, c'est que le yen, finalement, sur la scène internationale, ne compte pas beaucoup, ne pèse pas lourd. Donc, ça n'est pas, de mon point de vue, susceptible de remettre en cause les grands équilibres. Maintenant, ce qui va se jouer, c'est comment va réagir la BCE par rapport à ça. Parce que, enfin, moi, j'étais convaincu que la BCE n'augmenterait ses taux que très peu, petitement, au fur et à mesure, pour montrer des signaux que, effectivement, il y a une inflation qu'il faut maîtriser.
Voilà, Christine Lagarde a dit, j'ai fait 0,25, j'arrête. Gros,
exactement. Hein. Et ben, c'est un peu ce qu'on pouvait anticiper, surtout avec la résolution à venir du conflit. Et donc voilà. Enfin, moi, je suis pas très, je suis pas très pessimiste sur l'évolution des taux de l'Europe. Je suis beaucoup plus pessimiste sur le sujet qu'on évoquait avant, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que ce ne sont pas les sujets d'éthique ou les sujets de conséquences environnementales ou humaines qui prévalent sur les dynamiques économiques. Ce sont uniquement les sujets d'investissement, et c'est pour ça que le crash, c'est uniquement une réaction qui consisterait à dire, bah, puisqu'on n'est pas capable de se regarder dans les yeux pour savoir comment on doit y aller en responsabilité, eh ben on va tous se crasher comme ça. Là, peut-être qu'il y aura moins d'argent et qu'on se posera les bonnes questions à ce moment-là.
Et on prendra les investissements pour les mettre dans la résolution du changement climatique.
Oui, enfin, je.
Vous êtes un grand optimiste.
Non, mais c'est pas. Voilà, c'est comme ça.
Il nous reste 10 secondes, Étienne. Qu'est-ce qu'on attend à l'ouverture?
Stable en préouverture, avant que donc Micron ce soir. Et puis dans un instant, on parlera de la Française de l'énergie, qui confirme avoir trouvé le plus gros gisement d'hydrogène au monde. Ça se passe en Lorraine. C'est une small cap, c'est coté en bourse. C'est attendu en hausse à 9h.
Éric Delannoy et Sylvain Goyon, merci d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie. L'inflation, c'est jeudi, l'inflation américaine, oui. À suivre jeudi après-midi.